Bertrand de Villers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Fermental. Vous rencontrez des investisseurs au large et mid-cap event à Paris. Il y a les résultats semestriels qui ont été publiés il y a peu de temps maintenant. Comment se sont passés les derniers mois pour vous?
Ben écoutez, les derniers mois montrent un décollage de notre premier projet qui est un stade commercial. Donc notre premier produit est un Oméga 3, le DHA. Et on voit, surtout sur la seconde partie de l'année, un véritable décollage commercial, celui qui était anticipé un peu plus tôt peut-être par les investisseurs, mais qui arrive. Donc voilà pour notre premier projet. Notre second projet est un projet qui, lui, est encore à un stade de développement et on aborde la phase de développement industriel avec la commercialisation. C'est un projet qui comprend deux produits, une protéine et une protéine contenant un pigment bleu, très demandé par le marché. Le marché de la protéine alternative est en plein boom, avec une demande au niveau mondial qui explose. Et c'est sur ce marché-là qu'on veut positionner ce produit.
Donc ça, c'est effectivement l'oméga 3 qui était attendu est arrivé. Donc on en est là au commencement, on va dire, de cette aventure-là en tout cas.
Oui, exactement. Et les courbes de chiffre d'affaires et de commandes qu'on vient de publier le montrent bien, hein, avec une croissance très forte et qu'on voit se poursuivre sur 2020. Pour arriver au million de chiffre d'affaires que l'on ambitionne de réaliser sur ce marché.
Quand on a, effectivement, il y a toutes les questions du process industriel, c'est ces sujets-là qui ont pris plus de temps, enfin qui prennent du temps.
Oui, l'un des sujets dont on a parlé en début d'année, c'était la qualification de notre produit auprès d'un gros client qui est DSM, qui est le leader sur ce secteur. Et c'est vrai que ça a pris un peu de retard. La bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle, c'est qu'ils nous ont aidés à améliorer la qualité de ce produit. Et on espère que le processus de qualification se termine dans les prochaines semaines pour contribuer à une forte augmentation du chiffre d'affaires en 2020.
Oui, parce qu'il faut des autorisations, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour ce type de produit.
Oui, alors les autorisations, on les a eues sur le DHA, hein, on les a eues il y a déjà quelques temps. Donc ce qui nous manquait vis-à-vis de DSM n'était pas un processus réglementaire à proprement parler, mais leur propre processus de qualification interne. Mais ça ne nous a pas empêché, encore une fois, de commencer à développer le chiffre d'affaires avec d'autres clients. Et je dirais qu'une fois qu'on aura réussi la qualification DSM, ça sera évidemment un gage de qualité pour tous les prospects ou clients actuels et futurs.
On parle avec vous de micro-algues, de tout ce que vous avez pu effectivement tirer de ce savoir-faire, de cette recherche et développement sur ces micro-algues. Il y a aussi un sujet avec Suez, vous avez développé là d'autres sujets, effectivement, sur les questions de qualité de l'air et de traitement. Ce projet-là, où en est-il avec Suez justement?
Alors ce projet effectivement attire beaucoup l'attention et c'est vrai qu'il traite de problèmes qui sont complètement d'actualité avec les problèmes de climat, de réchauffement et de pollution. Cependant, c'est encore un projet à un stade de développement où des prototypes ont été mis en place dans la région parisienne pour absorber l'air pollué, soit dans des contextes urbains. Un prototype était Place d'Alésia, et puis il y en a deux qui sont dans des usines d'épuration ou de traitement. Et il y a eu un intérêt marqué ces dernières semaines par la publication de résultats d'un laboratoire indépendant qui a mis en évidence que ce projet non seulement permettait d'absorber le gaz carbonique, ce qui était son premier objectif, mais également le dioxyde d'azote et les microparticules qui sont un sujet au moins aussi, voire plus important dans des contextes d'agglomération polluée, comme c'est le cas de toutes les grandes villes.
Donc là, on en est encore au stade de projet. Il y a à la fois beaucoup d'attentes, c'est normal, forcément, pour ce type de sujet-là. Et après, il y a la mise en œuvre, il y a le développement. Ça va prendre un certain temps.
Oui, tout à fait. Et on doit freiner l'enthousiasme des personnes qui nous interrogent sur ce projet-là en leur disant que les modèles économiques vont encore prendre du temps pour générer du chiffre d'affaires et de la marge chez les deux partenaires, Suez et Fermental. Les gros investissements et le passage à l'échelle industrielle est principalement réalisé par Suez, mais on est sur un processus qui va encore durer des années avant que le modèle économique soit prouvé et donc que ces puits de carbone soient déployés à l'échelle industrielle.
Voilà, oui, il y a encore des interrogations sur le prix du carbone, justement, le prix qu'on pourrait fixer pour le carbone. Donc là, on est encore. Voilà.
C'est l'un des facteurs en fait, qui détermineront le futur modèle économique. C'est effectivement le prix de la tonne de carbone. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, avec un prix de la tonne de carbone qui est encore très bas, il n'est pas possible de trouver des solutions économiquement viables. Mais vous avez peut-être entendu l'annonce d'Air France il y a quelques semaines expliquant qu'ils entendaient compenser dans les années à venir tout le CO2 généré par les vols. Et par exemple, c'est le type de sujet sur lequel on est consulté pour voir quel type de réponse on peut apporter.
Voilà, donc on est en pleine réflexion justement sur ces modèles-là. Un mot de la situation financière. Vous dites que vous avez un peu réduit la consommation de trésorerie et vous avez mis également en place des financements complémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, alors la consommation de trésorerie s'est un peu réduite, mais elle commencera à se réduire grâce aux ventes de DHA et au cash flow généré par nos ventes d'Oméga 3 en 2020. Cependant, en parallèle, on va devoir engager des dépenses et des dépenses significatives sur notre second projet, protéines et colorants, qui là nous amène à rechercher des solutions de financement selon diverses formes, à la fois sous la forme de partenariats avec des industriels intéressés par ces produits et sous la forme de financement par des opérations de marché probablement plus classiques.
Les marchés ne sont pas évidents pour beaucoup de small et mid-cap. Ça a été le cas pour vous aussi, je dirais, dans cette période. C'est pas facile.
Oui, tout à fait. On a subi, comme tout le monde, les conséquences d'arbitrage de gérants qui se sont fait largement au détriment des small et mid-cap. Et donc, on aimerait bien un rebond comme c'est le cas de tous les professionnels du secteur. Mais écoutez, ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Et je pense que la qualité et le positionnement des différents projets sur lesquels on est nous donnent une très bonne confiance pour arriver à trouver ces sources de financement de façon à ne pas freiner notre développement.